constatons dans les intervenants, vous êtes les seuls magistrats sur ces deux jours à intervenir. Donc c'est en tant que magistrat que je m'adresse à vous. Quel regard portez-vous de façon globale, puisque sinon ce sont des avocats qui seront présents demain lorsqu'on parlera des sanctions. Donc la question de sanctions se pose vis-à-vis de la fonction publique. Quel regard portez-vous de façon globale, parce qu'il ne s'agit pas de faire cas par cas, sur les sanctions fonctionnelles, financières et, je dirais, globalement sur l'image politique qu'il y en a, au regard des décisions dont vous avez pu prendre connaissance dans le cadre de vos fonctions, les diverses fonctions que vous avez pu exercer, dont vous nous avez fait un tableau rapide, mais qui nous permettent quand même de comprendre que vous avez une certaine hauteur de vue. Comment voyez-vous la sanction générale sur les gens qui appartiennent à la fonction publique et où ils sont assimilés, au regard de ce sont les simples justiciables, personnes privées? Voilà ma question.
Vous voulez y aller ou... Dites-le, puis je... Ok, oui,
monsieur le président.
Très bien. Puisqu'on est deux magistrats.
Pas de même rang.
Deux magistrats, allez-y, et puis je complète.
Vous posez, monsieur, une question qui est extrêmement importante. La réponse est difficile. La réponse est difficile. Moi, j'ai tendance à penser quand même que le régime disciplinaire des agents publics est un régime assez sévère, qui s'applique quelles que soient les circonstances, quelles que soient les administrations. C'est un régime disciplinaire qui comprend une échelle de sanctions, comme vous le savez, qui va de l'avertissement jusqu'à la révocation. Les décisions administratives qui sont prises à cet égard sont soumises à un contrôle normal de la part du juge administratif. Donc, moi, il me semble que nous avons un régime disciplinaire des agents publics qui est un régime efficace et, je dirais, efficient. Alors, vous avez posé au début de votre intervention la question de la corruption. Bon, alors évidemment, c'est une vraie question. Moi, pour ma part, j'ai quand même tendance à penser que les cas de corruption dans les trois fonctions publiques sont des cas extrêmement limités. Moi, c'est ma conviction profonde. Quand ces cas sont découverts, ils font l'objet, à mon sens, des sanctions appropriées, sanctions disciplinaires, évidemment, sanctions pénales. Alors, on peut toujours trouver tel ou tel cas qui échappe peut-être à cette règle. Mais encore une fois, moi, j'ai vraiment l'intime conviction, pour avoir aussi exercé dans l'administration d'État et dans l'administration territoriale, que l'autorité administrative, alors elle peut se tromper, mais c'est sous le contrôle du juge, mais en règle générale, les comportements fautifs des agents publics sont sanctionnés, je sais pas si toujours correctement sanctionnés, mais sont sanctionnés par l'autorité administrative.
Oui, moi je suis un peu sur la même ordre d'idées. Bien sûr, le sentiment d'impunité que certains citoyens ont, peut-être dont vous faites l'écho indirect, je ne dis pas que vous pensez ça, mais c'est quand même quelque chose qu'on lit, est fondé en partie sur le fait que les administrations, c'est-à-dire la nature même de la procédure disciplinaire, aiment bien laver le linge sale en famille. Et les articles 40, les saisines de justice, même si elles augmentent, ne sont pas le penchant naturel de responsables administratifs. Ils mettent au placard, ils écartent du poste, mais la saisine de la justice pénale est quand même pas tout à fait dans la culture administrative. Deuxièmement, je trouve, moi, en 40 ans d'action publique, j'ai vu qu'il y avait des évolutions. Par exemple, la loi Sapin 2, qui a été citée ce matin, de décembre 2016, par la cartographie des risques, elle rappelle aux titulaires de hautes fonctions administratives qu'ils doivent penser à ça. Un directeur de cabinet ou un ministre de l'Intérieur, il sait que la sous-direction des casinos est à risque. Blanchiment d'argent, etc., achat d'autorisation de machines à sous. Donc, il y a une responsabilité politique du fonctionnaire et politique du ministre de ne pas laisser un agent pendant 10 ans sous-directeur des jeux. Parce que c'est quasiment le mettre en situation de péril. Donc ça, c'est quand même amélioré avec tous les efforts qui ont été faits. Troisièmement, là, on parle des infractions liées au service. Mais pour ce qui est des infractions du type mœurs, harcèlement, etc., là, je trouve que le fonctionnaire est traité comme un cadre du privé, où ça s'est beaucoup amélioré maintenant. La lutte contre les discriminations, contre le harcèlement, a pris une importance grande dans l'administration. Maintenant, quand je parle avec des responsables, je suis quasiment sûr qu'ils ont fait l'objet d'une action pénale en harcèlement de quelqu'un qu'ils ont sanctionné. Enfin, il y a moins d'impunité absolue des fonctionnaires qui se drapaient dans leur dignité, me semble-t-il. Et enfin, il faut prendre en considération que le fonctionnaire n'échappe pas à une responsabilité, même disciplinaire, pour des faits hors service. Ce qui n'est pas rien dans les devoirs du fonctionnaire. Vous commettez, je ne sais pas moi, un très grave accident de la route avec délit de fuite, par exemple, qui touche un peu à l'honneur. Ça n'a rien à voir avec votre activité administrative, mais si vous êtes directeur d'administration centrale, vous sautez. Et vous pourrez, on a jugé ça à mes conclusions, vous pourrez faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour un fait grave qui entache un peu l'honneur de l'administration par les responsabilités que vous exercez. Je ne sais pas si je suis clair dans ma réponse, mais tout ça fait que je n'idéalise pas du tout la sanction, mais c'est erroné de penser qu'un fonctionnaire, quand j'ai cité mon imprimé avec toutes les cases à cocher, c'est réel. D'autres questions ou remarques ou... Oui, madame. Madame la professeure.
Constitutionnelle de responsable. Je parlais, comme je dis, de ce responsable de première page des journaux des hommes politiques. Par contre, je n'ai pas parlé de la responsabilité de simple fonctionnaire, simple agent, en disant qu'on a étudié d'une manière très profonde, spécialement à propos de la responsabilité pour le non-respect de la discipline des finances publiques. Je vais signaler maintenant cette partie que j'ai omis dans ma présentation orale, qu'en Pologne, on a créé, grâce à la loi de 2004 sur la responsabilité pour le non-respect de la discipline des finances publiques, les commissions spéciales qui sont, en certain sens, qui répond à votre idée de tribunaux, ce sont les tribunaux de discipline budgétaire, oui. Alors, en Pologne, contrairement à la situation française, je cite maintenant mon collègue qui est spécialiste, qui est même vice-président de cette commission principale en Pologne, que les défenseurs de la discipline déposent environ 1500 demandes en condamnation par an. Et c'est une manière très efficace d'acquiser les agents qui, par exemple, je cite de nouveau les exemples, il s'agit des violations, la non-fixation ou non-recouvrement de créances dues à une collectivité territoriale, la transmission ou l'utilisation illégale d'une dotation, l'accomplissement d'une dépense ou l'engagement d'une dette en dépassant le budget ou le plan financier d'une collectivité territoriale, le non-paiement de contributions sociales de travailleurs, la non-exécution des engagements d'une unité du secteur des finances publiques entraînant l'obligation de payer les intérêts ou d'exécuter les peines, etc., etc. Alors, en Pologne, cette responsabilité pour la violation de règles de la discipline budgétaire sont très répandues. C'est une activité de ces commissions est vraiment très vive. Merci.
Merci. D'autres observations? Oui.
Véronique Inquiète, mais c'est une question à la salle tout autant qu'à chacun de vous quatre, des quatre intervenants. Je voudrais qu'on revienne un instant, 3 ans en arrière. On parlait ce matin, quelques allusions à l'affaire Tapie, à l'arbitrage. Je voudrais qu'on revienne à ce mois de décembre 2016 où on a vu une Christine Lagarde, vous vous en souvenez, condamnée par la Cour de justice de la République pour négligence, mais n'ai-je pas précisé ce matin, dispensé de peine, parce que tout le monde savait très bien qu'au fond l'affaire lui avait totalement échappé, donc la punir eût été indécent, comme au fond dans l'affaire du sang contaminé. À la même époque, il y a des poursuites de son directeur de cabinet. Je me tourne vers Stéphanie, Stéphane Richard, le patron d'Orange, devant la CDBF, qui est l'auteur, ou comment dire, à l'origine de deux QPC, tout de même, celles auxquelles le Conseil constitutionnel a dû répondre. Et puis décembre 2016, c'est cette fameuse décision du Conseil constitutionnel, alors qu'on l'interroge exclusivement sur l'injusticiabilité des élus locaux, répond que, et pour les ministres et pour les élus locaux, c'est tout à fait normal parce qu'ils ont suffisamment de responsabilités par ailleurs pour qu'on ne les inflige pas, qu'on ne leur inflige pas en plus des poursuites devant la CDBF. De telle sorte qu'on a le sentiment que non seulement la législation est conforme à la Constitution, mais qu'en plus elle est la seule conforme à la Constitution. Et donc j'ai une question qui est très très simple, c'est: suis-je le seul à penser que tout cela est délirant? Suis-je le seul à penser que le Conseil constitutionnel a pris une décision qui est insupportable, et on est... 2 ans avant la crise des Gilets jaunes? Suis-je le seul à penser que la Cour de justice de la République, en vérité, fonctionne bien plus mal que la CDBF? Et suis-je le seul à penser qu'en vérité, le fond du problème, c'est l'injusticiabilité des ministres? Parce que comment aller poursuivre, au fond, des membres du cabinet, des administratifs, des fonctionnaires, lorsque les fonctionnaires, en vérité, ne font qu'appliquer l'ordre d'un ministre qui, lui, le donne d'autant plus aisément qu'il sait qu'il n'est pas responsable devant la CDBF. Au fond, je pense que si on avait pris le problème à l'envers, alors évidemment beaucoup plus tôt, mais si on avait pris le problème à l'envers, si on avait pu poursuivre Christine Lagarde devant la CDBF, elle aurait pu être condamnée à une amende, mais telle que la CDBF les inflige, c'est-à-dire une amende de 500 euros au maximum, qui ne l'aurait pas nécessairement conduite à démissionner du FMI. Donc en vérité, question extrêmement simple, est-ce que vous ne pensez pas chacune, chacun, que le coupable, c'est le Conseil constitutionnel?
Alors, Pierre, tu connais déjà ma réponse, puisqu'on en a déjà discuté, donc je suppose que la question s'adresse plutôt aux autres intervenants. Effectivement, on partage la même opinion sur le sujet. Les QPC rendus par le Conseil constitutionnel, et je dirais qu'il n'y en a aucune qui échappe à la critique concernant la CDBF, c'est ni fait ni à faire. Il y a des choses dedans qui ne sont pas acceptables par rapport justement au régime général de responsabilité. Je pense que les raisons, elles sont ailleurs, mais elles ne sont pas juridiques, purement et simplement. Donc non, tu n'es pas le seul à être choqué. Je pense qu'on n'est pas non plus les deux seuls à être choqués. Mais je pense qu'effectivement, les éléments de réponse, on ne les maîtrise pas tous. Ou en tout cas, on subodore, mais on n'a aucun moyen d'appui sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, interventions?
Moi, je ne me prononcerai pas sur le Conseil constitutionnel, mais sur l'affaire Lagarde, je pense que c'était quand même assez préoccupant ce qui s'est passé, de voir un directeur de cabinet et un ministre s'opposer dans un prétoire, quel que soit le prétoire, cour discipline ou tribunal correctionnel, enfin, s'opposer... par représentation, même s'ils n'étaient pas là tous les deux. Parce que c'est la première fois depuis Saint-Simon qui décrit la machine à signer de Louis XIV. C'était la griffe. Il y avait un commis de Louis XIV qui avait la griffe et qui imitait la signature de Louis XIV. Saint-Simon explique très bien ça. Et dans tous les grands ministères, il y a une machine à signer électronique qui met la signature du ministre. Si le béaba d'un bon fonctionnement de l'État, c'est que le ministre et le directeur de cabinet se mettent d'accord sur à qui le ministre délègue ce pouvoir très brûlant de signer à sa place en déclenchant la machine. Je peux vous dire que dans les maisons tenues, il n'y a pas photo. Il y a une personne qui a une responsabilité politique là absolue, et le moindre pépin, il gicle, il est évacué. Alors voir pendant des mois, des années, dans l'affaire Lagarde, c'est ça qui m'a le plus blessé du point de vue d'une conception de l'État, la ministre dire c'est pas moi, c'est lui, bien que le cabinet dire c'est pas moi, c'est elle, parce qu'elle m'avait dit de faire signer à la machine, mais elle ne savait pas qu'il y avait la machine. Enfin, bon, c'était cauchemardesque. Et puis, deuxièmement, sur la Cour de justice de la République, je pense que le projet de réforme constitutionnelle qui voudrait que le ministre soit jugé en correctionnel normalement est assez sain, et il est aussi sain parce qu'il garde un filtre. Moi, je ne tomberai pas dans la démagogie de dire jugeons les ministres par un tribunal correctionnel banal, parce que, ayant été rapporteur à la commission de sélection des requêtes de la Cour de justice de la République, la commission qui filtre les requêtes, eh bien, dès qu'il y a une décision négative prise par un ministre, il y a des personnes attaquent en discrimination, etc. Donc, voilà, je pense qu'on ferait un progrès, peut-être peut-on en faire d'autres. Là, vous avez lancé une réflexion, je ne suis pas opposé. Mais le brûlant pour moi, c'est de faire que on garde un filtre et qu'on se retrouve en correctionnel où le ministre et ses collaborateurs peuvent être ensemble pour qu'il y ait une vision globale des faits reprochés. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? J'en fais une dernière, moi je ne la développe pas, mais je vous la livre. Je crois que derrière tout ce que nous avons fait dans le début de cet après-midi, il y a quand même une question de responsabilité et de risque. Le vice-président du Conseil d'État, l'ancien Jean-Marc Sauvé, a fait un très bel article sur « Je veux une fonction publique plus apte à prendre des risques ». Et je crois que de tout cœur qu'il faut faire attention à la responsabilité telle que nous venons dans ses différents aspects telle que nous venons de la décrire, mais il ne faut pas non plus des fonctionnaires et accessoirement des ministres paralysés par la peur du risque. Moi, quand je suis allé en cours de discipline budgétaire, c'est que j'avais pris un risque. Consciemment, j'avais proposé à ma ministre de ne pas respecter la législation des marchés parce que je voulais un étage de plus dans un bâtiment public qui était rendu absolument nécessaire. Ben, nous n'avons pas fait un nouveau marché, nous avons demandé à celui qui avait construit les 4 premiers étages de faire un étage de plus. On savait qu'on était borderline, plutôt de l'autre côté, par rapport à la législation des marchés. Mais on savait aussi que c'était une très bonne décision qu'on prenait. Et quand la Cour des disciplines budgétaires est venue dire « vous n'avez pas respecté les marchés », on a dit « on en est fiers ». Parce que l'intérêt public était... Et ça s'est arrêté là. Il faut quand même... j'étais directeur de cabinet des affaires sociales, on a eu le SRAS, et risque d'épidémie incroyable. Les gens commençaient à stocker des masques pour leur petite famille. Ils avaient un ami médecin, ils prenaient un paquet de sang. Enfin, on retrouvait la France de Vichy et les marchés noirs. Ça serait dramatique si on avait une épidémie. Chacun tirerait la corde à soi. Donc, et on s'est aperçu qu'on n'avait plus de médecins de sécurité publique, de sécurité sanitaire. L'effectif des médecins publics en France avait diminué. On en a recruté 50 en dehors de toutes les procédures de concours. Donc c'était pas très régulier. Mais on a pris le risque parce que l'intérêt général, c'était d'avoir une structure. Bon, 2 ans après, le Conseil d'État nous a donné raison en disant effectivement la stricte régularité des concours n'avait pas été respectée, mais de l'autre côté l'urgence et l'intérêt public justifiaient cette exception. Donc je dis qu'il faut penser au risque, à la responsabilité, mais il faut savoir aussi prendre des risques strictement justifiés par l'intérêt public.
Je pense que effectivement vous avez raison sur ce point-là. La notion de risque est très importante à prendre en compte. Et il faut supposer que c'est à certains niveaux de gravité que le juge, que la responsabilité financière puisse être engagée. Voilà. Il ne s'agit pas d'aligner toutes les irrégularités. Voilà. Il s'agit bien de cibler les plus graves de ces irrégularités. Parce que sinon, effectivement, on va se retrouver avec un système qui sera déjà, d'une part, pas équitable, pas gérable, et qui va effectivement prendre le risque de paralyser le fonctionnement de l'administration. Il faut être mesuré, il faut pouvoir trouver un équilibre entre les deux.